Thank you, President Tingey.
Merci, Président Tingey. Sœur Oaks et moi-même, nous réjouissons d'être ici ce soir en Idaho, à l'Institut de religion, pour cette conférence retransmise. Et pour l'audience qui nous écoute, je voudrais dire combien nous sommes un grand groupe de jeunes adultes. Nous avons ici à peu près 10 000 dans la région de Pocatello, dont 7 000 font partie de l'université de Idaho State. Et nous avons le président de l'université ici avec sa femme ce soir. Il y a à peu près 14 000 étudiants à l'université d'Idaho. Donc, il s'agit de 50% de ce groupe. C'est une communauté remarquable ici au sud-est de l'Idaho. Et nous ressentons comme une grande bénédiction d'être ici pour cette émission. Quand j'ai parlé à la veillée du DEE en mai 2005, j'ai parlé de sortie et de fréquentation. Cela a suscité tant de réactions qu'il me semble bon de revoir ce sujet. Avant de passer au sujet principal de mon discours ce soir, pour ceux qui n'ont pas entendu ce discours et pour rafraîchir la mémoire de ceux qui l'ont entendu, je vous en donne un résumé. Premièrement, j'exprimais une opinion avec celle d'observateurs qui s'y connaissent que les rendez-vous de couple ont pratiquement disparu sur les campus et chez les jeunes. Ils ont été remplacés par des longs moments à traînailler et ne rien faire en particulier. J'explique la différence entre traînailler et sortir en couple pour ceux qui ne savent pas la différence. L'une des lettres reçues après mon discours d'une sœur d'ici en Idaho donne une nouvelle et meilleure définition de traînailler. Traînailler, c'est ne rien faire de bien ou d'utile ensemble. Troisièmement, j'ai expliqué pourquoi les sorties ensemble sont devenues difficiles et impopulaires. Ensuite, j'ai donné ce conseil que je cite ici de mon discours. Vous, les hommes, si vous êtes rentrés de mission et suivez toujours le conseil qu'on vous a donné lorsque vous étiez adolescent, il est temps maintenant de mûrir. Prenez courage et cherchez quelqu'un que vous pourrez épouser. Commencez par faire des sorties à deux en faisant une variété de choses et avec une variété de jeunes femmes. Et lorsque cela découlera une bonne chance de mariage, passez alors à ce qu'on appelle faire la cour. C'est le moment du mariage. C'est ce à quoi le Seigneur s'attend pour ces jeunes fils et filles devenus adultes. Ce sont les hommes qui doivent prendre l'initiative. Alors, jeunes gens, allez-y. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une sortie en couple, cette définition du terme de ma petite fille de 18 ans vous aidera. Elle en définit trois parties qui commencent par la lettre P. Une sortie à deux doit être préparée à l'avance, payée, éventuellement doit produire un couple. Vous, les jeunes femmes, résistez à l'idée de traîner en groupe mixte et encouragez les rendez-vous simples, peu coûteux et fréquents. N'encouragez pas les situations où c'est vous qui fournissez les rafraîchissements, ce qui encourage les non-payants. Une activité de groupe une fois de temps en temps, c'est bien. Mais si vous remarquez que ce n'est que de cette manière-là que vous rencontrez des jeunes gens du sexe opposé, je pense que vous devriez fermer la porte de la cuisine et la porte d'entrée. Si vous faites ça, vous devriez aussi mettre un mot à la porte qui dit « On n'ouvre que pour avoir un rendez-vous à deux » ou quelque chose dans ce goût-là. et jeunes femmes, si vous devez persuader les jeunes gens d'avoir des rendez-vous plus souvent, il faudra bien que chacun de vous comprenne que sortir ensemble ne veut pas dire s'engager à le faire de manière régulière. Mes jeunes amis célibataires, nous vous encourageons à faire des connaissances de personnes de sexe opposé qui pourront éventuellement se développer en un mariage, et non pas avoir que des rapports qui ne deviendront rien de plus que des équipes sportives. Le mariage n'est pas une activité de groupe, du moins pas avant que beaucoup d'enfants n'arrivent. Maintenant, qu'est-ce que s'est-il passé après ce discours? J'ai fini de citer mon discours. Eh bien, j'ai reçu des lettres de remerciement, de femmes surtout. Vous avez bien compris, beaucoup m'ont dit. Certaines ont affirmé ce que l'une d'elles a appelé la situation lamentable des rendez-vous parmi les jeunes adultes seuls en général. Fin de citation. Quelques jeunes gens se sont plaints que les jeunes femmes qui les intéressaient refusaient de sortir avec eux ou que c'était les jeunes femmes qui n'étaient pas intéressées à s'engager à participer à la vie de famille. Une lettre d'une jeune femme disait que beaucoup de jeunes adultes célibataires dans l'Église sont frustrés par cette culture du traînage ensemble et ils se sentent impuissants pour changer ce système tout seul. Cette jeune femme m'a remercié d'avoir placé sur chacun de nous la responsabilité d'agir individuellement et ajouté qu'elle avait trouvé des façons de décourager le traînage et d'encourager les rendez-vous à la place. Comme par exemple, dans une autre lettre, et c'est ma favorite, cette jeune fille avait un signe à la porte de son appartement qui disait « On ouvre que pour les demandes de rendez-vous à deux ». Une autre jeune femme a rapporté que sa sœur avait épousé un homme qu'elle avait rencontré en traînant avec un groupe mixte. Ils n'avaient pas eu ensemble beaucoup de rendez-vous. Alors, au moment d'occasion sociale, ils ne s'étaient jamais trouvés en couple. Et maintenant, leur mariage était en difficulté parce que chacun d'eux continue à tenir compagnie, lui avec les garçons et elle avec les filles. Le temps ne me permet pas de revoir beaucoup de ces lettres, mais il y en a une que je vous offre parce qu'elle représente sans doute des expériences qui sont typiques. Cette lettre est arrivée un an environ après mon discours. Elle était signée par un couple qui me remerciait de leur heureux mariage. Ils me disaient qu'ils avaient tous les deux été étudiants et amis dans une paroisse de jeunes célibataires. Ils lui avaient demandé si elle voudrait bien sortir avec lui pour s'amuser et mieux se connaître. Après y avoir réfléchi plusieurs jours, elle lui a dit que cela ne l'intéressait pas. Quelques mois se sont écoulés, et puis mon discours à cette veillée a fourni un petit encouragement nécessaire. Ils m'ont écrit « Pendant cette veillée, vous nous avez fait remarquer que pour faciliter une demande de rendez-vous, il fallait éviter de faire penser qu'un rendez-vous était quelque chose de sérieux et que si nous devions persuader les jeunes gens de demander un rendez-vous plus fréquemment, nous devions bien comprendre tous les deux que sortir ne voulait pas dire sortir ensemble continuellement. » Fin de citation de mon discours. Je suis. Immédiatement après cette veillée, elle est venue vers moi et m'a demandé si l'on pouvait parler. Elle lui a dit qu'elle avait reconsidéré l'idée de sortir avec lui et qu'il était toujours intéressé. Elle était d'accord. Je reprends. Nous avions toujours beaucoup de choses à apprendre sur l'un et l'autre, ont-ils écrit, et beaucoup de changements à faire. Nous nous sommes mariés au mois de mai suivant au temple de Washington, D.C. Votre conseil direct et clair nous a aidés à comprendre que les sorties ensemble étaient des occasions de mieux nous connaître et pas un engagement immédiat d'une relation à long terme ou d'un mariage. » Fin de citation. Oui, bien sûr. Comme j'ai dit dans mon discours, des rendez-vous simples et fréquents permettent à deux personnes de faire la connaissance de beaucoup d'autres personnes d'une manière qui leur permet de faire une évaluation profonde de quelqu'un comme époux ou épouse. La vieille tradition des rendez-vous était une manière merveilleuse de connaître une personne du sexe opposé. Cela encourageait la conversation, cela vous permettait de voir comment vous traitez les autres et comment vous-même étiez traité en face à face. Cela vous donnait des occasions d'apprendre comment initier et faire durer une relation mûre. Rien de cela n'arrive quand on traîne en groupe seulement. Maintenant, je voudrais vous présenter ma chère petite amie qui a bien voulu sortir avec moi ce soir, ma femme, Kristen.
Bonsoir, je suis tellement heureuse. Car de Hawks me considère toujours sa petite amie. Mais, mesdemoiselles, il y a toujours d'espoir. Et messieurs, ça marche aussi pour vous. Nous vous aimons beaucoup. C'est un honneur pour nous d'être avec la nouvelle et la noble génération de l'Église, parce que vous êtes l'avenir et vous êtes magnifiques. Il y a tant de beauté et de joie devant vous dans la vie. Nous savons aussi que le fait d'être célibataire pose des défis uniques en ce qui concerne l'éducation, le mariage, la profession, le dévouement à votre famille et à votre religion. Ce soir, je voudrais parler de quatre choses. D'abord, votre capacité de fortifier votre foyer et la famille. Ensuite, votre capacité de créer et d'édifier l'un et l'autre. Et troisièmement, votre vie dans la paroisse de célibataire. Et aussi avec qui vous pouvez sortir. Premièrement, le Seigneur dépend sur vous pour aider à l'exaltation de votre famille éternelle. Sœur Mary Cook a parlé de ce sujet pendant la conférence d'octobre. Elle a dit « Toutes les familles ont besoin d'être fortifiées, de la famille la plus idéale à celle qui souffle le plus. Cette force peut venir de vous. Je voudrais témoigner que ce qu'elle a dit est vrai. Votre énergie, votre enthousiasme, votre exemple peut avoir une telle influence sur votre famille. Mais même si ça vient sous la forme de lettres et de coups de fil. » Les jeunes célibataires dans ma famille sont formidables et leur dévouement et leur sens de l'humour et leur foi fournit une quelque chose qui les fortifie ensemble. Pour citer Sœur Cook, vous avez de l'importance et vous avez de l'influence. Deuxièmement, nous avons tous désespérément besoin d'encouragement. Ces paroles d'encouragement peuvent venir de vous. Ce sera une bénédiction éternelle. Messieurs, frères, je vous parle à vous. N'ayez pas peur d'édifier ceux qui se trouvent autour de vous. On se souviendra souvent de vos paroles. Elder Hawks a écrit dans son journal de fin d'année du lycée quelques lignes de louange à une jeune femme qui, quand elle est devenue adulte, est devenue la présidente d'un bureau de général d'auxiliaire dans l'Église. 50 ans après, elle a utilisé ces mots en écrivant son biographie. Je me souviens de cette histoire alors que j'étais à la banque la semaine dernière et j'ai vu deux jeunes gens, membres de l'Église. Mes sœurs, vos mots d'encouragement, votre vision pour revoir le potentiel et la bonté dans chacun, j'espère surtout dans les jeunes gens autour de vous, peuvent apporter de grands dividendes. Vous devriez vous donner aux autres. Troisièmement, la plupart d'entre vous se trouvent dans des paroisses de célibataires. Il n'y a pas d'église séparée pour ceux qui sont célibataires. Il y a des branches, des paroisses ou des classes pour célibataires, mais on fait tous partie de la même église. Ça peut être fantastique d'assister à une paroisse célibataire. Il y a beaucoup d'activités, des fêtes, des projets spéciaux, de la direction spirituelle, etc. Cependant, dans cet environnement, de trouver un compagnon ou une compagne future. Et pendant une période très courte, vous devez vous concentrer, mettre toute votre énergie et à ne pas vous faire de soucis à trouver un mari ou une femme. Vous êtes jeune. Vous n'avez pas de rides. Vous avez du temps de libre. Et vous avez un monde d'opportunités, d'options. Vous devez prendre de bonnes décisions. Mais quelquefois, de prendre ces bonnes décisions semble très difficile. Pourquoi c'est tellement difficile? Elder Jeffrey Holland a adressé ce problème alors qu'il discutait aux missionnaires au sujet de leurs problèmes dans le champ de la mission. Il a parlé du prix que nous devons tous payer pour retourner au Père Céleste. Son conseil s'applique à tout le monde et à tous ceux qui essaient de toutes leurs forces de retourner au Seigneur. Pourquoi est-ce que la mission est tellement dure? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des progrès? Pourquoi on ne peut pas... Il y a très peu de gens qui se joignent à l'Église. Mais c'est vrai. Nous, pourquoi est-ce que les gens ne s'amassent pas en foule pour le baptême? Et ça, personnel, était, j'ai pensé beaucoup à ce sujet. Personnellement, ce sont mes sentiments personnels. Je suis convaincue que le travail missionnaire n'est pas facile parce que le salut ne doit pas être sans grande valeur. Le salut n'a jamais été facile. Et c'est la vérité. Et nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui dirige l'Église. Pourquoi est-ce que nous pouvons penser que ce serait facile pour lui alors que c'était difficile pour lui? Pourquoi est-ce que nous pourrions éprouver un témoignage émouvant et durable si nous ne ressentons rien? Écoutez bien ce que j'ai dit. Nous devons être préparés à souffrir comme il a souffert et de temps en temps pleurer comme il a pleuré lui-même. Le salut n'est pas une expérience sans valeur. Nous devons toujours nous rappeler de ça. Ne laissez aucune épreuve entre vous et votre loyauté envers votre Père céleste. Ne laissez aucune insulte, aucun défi vous séparer de la possibilité de prendre la Sainte Cène. Et tenez bon et souvenez-vous de ce qui est vrai. Quatrièmement, décidez avec qui vous voulez sortir. Elder Oaks et moi, nous savons tout bien tous les deux ce que c'est d'être célibataire dans cette Église. Il s'est retrouvé célibataire 2 ans et moi, j'ai été célibataire pendant plus de 51 ans. C'est un record mondial. Nous savons bien ce que c'est d'être seul et de pleurer la nuit. Si souvent, récemment, on nous a demandé toujours la même question. S'il n'y a personne avec qui je peux sortir, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que vous suggérez? Une sœur célibataire a partagé ses sentiments avec une amie. Elle était fatiguée d'attendre de trouver le bon compagnon, fatiguée de prendre toute décision toute seule. Elle voulait être femme, être mère, avoir une famille, mais elle était désespérée et elle a pris les mauvaises décisions. Elle a décidé de poursuivre un homme qui n'avait pas les mêmes valeurs qu'elle. N'importe qui. Elle s'est rendue compte, après que c'était trop tard, que son compromis lui a apporté beaucoup de misère, beaucoup de mépris d'elle-même, de désespoir. Elle s'est rendue compte trop tard que ça valait vraiment la peine d'attendre le Seigneur et de trouver le bonheur. Encore une fois, la question, s'il n'y a personne avec qui je peux sortir, qu'est-ce que je dois faire? Nous vivons dans la plus grande des dispensations et nous devrions savoir pour nous-mêmes pourquoi c'est si merveilleux et ce que nous pouvons accomplir. Je vais vous demander ce soir de vous écrire une lettre à vous. Une lettre concernant votre avenir qui s'adresse à la famille et aux enfants que vous voulez avoir un jour. Quand vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, alors vous le trouverez. Est-ce que vous voulez votre future famille de savoir qu'ils ont un Père céleste qui les aime et qui est très intimement engagé dans votre vie et qui les protège? Un Père céleste qui répond leurs prières, un Père céleste qui est tout à fait conscient de tout ce qui se passe dans leur vie, un Père céleste qui les protège, qui les surveille. Est-ce que vous voulez trouver un compagnon qui fait des alliances éternelles au Père céleste et de rester loyal? J'ai entendu une fois, on m'a donné une bénédiction qui a dit, si vous ne pouvez pas endurer les défis d'être célibataire, vous ne pouvez pas endurer la pression d'être marié. Est-ce que vous voulez que votre futur époux, épouse et enfant sache que le Seigneur Jésus-Christ, qui a beaucoup souffert et toutes les tentations de chaque sorte, est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ça ou est-ce que vous voulez rester tout seul? Est-ce que vous voulez que votre famille soit unie dans leur témoignage de Joseph Smith et du Livre de Mormon et du grand pouvoir que ce témoignage peut apporter à votre famille? Est-ce que vous savez avec fermeté que vous faites partie de la vraie Église de Christ et que vous avez accès à toutes les bénédictions pour la vie éternelle? Est-ce que vous soutenez le président Glenn Hinckley en tant que prophète réel de Dieu? Écrivez votre lettre à vous-même. Écrivez à ceux que vous allez aimer un jour ce que vous voulez, des principes que vous souhaitez pour vous-même. et faites toutes ces choses et vous serez capable de répondre à vos questions, car le pouvoir est en vous-même. Vous connaissez les réponses et vous voulez être heureux pour toujours. Vous avez les réponses dans votre cœur. Je vous aime tellement. Je suis tellement reconnaissant d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je veux absolument que vous sachiez que j'ai un témoignage de cette Église et que c'est un flambeau de sûreté dans un monde très sombre. Et je dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Kristen.
Merci, Kristen.
Before I go to my prepared remarks,
avant de passer au discours que j'ai préparé, je voudrais dire que je suis vraiment heureux d'avoir épousé une femme qui a un record mondial.
Now to my main subject.
Maintenant, passons au sujet de ce soir. Aujourd'hui, les jeunes vivent une époque difficile. Chaque jour, nous sommes assaillis de gros soucis. Le réchauffement planétaire, les guerres et les bruits de guerre, la sécheresse, une pandémie possible d'une maladie infectieuse et bien sûr, la récession. Les villes de bord de mer se soucient de l'élévation de l'eau qui ira jusqu'à leur porte ou plus haut. Mais aussi, pénible que cela soit, je me soucie encore plus de la marée montante du mal partout dans le monde. Je vois toutes ces difficultés comme l'accomplissement des paroles d'enseignement prophétique du Père Léhi. Il doit y avoir une opposition en toutes choses. Dans le sein de toutes ces difficultés, nous devons faire confiance aux promesses du Seigneur. Il nous a enseigné qu'il ne demandait rien de nous qui soit impossible d'accomplir parce qu'il prépare toujours la voie pour qu'il nous soit possible de l'accomplir. Il nous a montré que même s'il n'exauce pas nos prières pour nous soulager des difficultés, il nous fortifie afin de pouvoir faire face à elles. Et il nous a aussi enseigné, si vous êtes préparés, vous ne craindrez point. Nous sommes envahis par le mal, en littérature, en musique, en divertissement, au cinéma, sur les vidéos, sur Internet, dans nos écoles et dans les magasins. Nous ne pensons pas changer ces mauvaises influences qui nous affligent, nous et nos enfants, mais nous pouvons nous fortifier pour y faire face. Nous devons créer des îlots de sérénité et fortifier nos remparts contre les forces qui nous assiège dans nos demeures protégées. Autrement dit, nous devons repousser le monde de toutes nos forces. Cette idée de pousser plus fort que le monde ne veut pas dire que nous devons nous révolter ou devenir distants envers nos voisins ou ennuyer ceux avec qui nous avons affaire. Cela suggère seulement que, selon nos limites et nos propres ressources de temps et d'influence, nous devons prendre un parti, le faire connaître et essayer de persuader les autres de ses mérites, au moins pour nous. Comme exemple de ce que je veux dire par pousser plus fort, je vous raconte une expérience que je n'ai jamais avant publiquement relatée. Elle a eu lieu il y a plus de 50 ans. J'étais sergent dans la garde nationale d'Utah. J'avais 21 ans et les épreuves scolaires nécessaires pour être qualifié d'officier, commissionné, comme lieutenant d'artillerie, me remplissaient l'esprit. Je les avais toutes réussies. Mais il me manquait de passer un examen médical. Je me suis rendu à un bâtiment médical où il n'y avait qu'un personnel de réserve comme moi, ce qui explique peut-être le traitement que j'ai reçu. Un caporal m'a fait passer une épreuve de cécité aux couleurs. Il m'a montré une douzaine de pages couvertes de points de différentes couleurs et m'a demandé quel numéro je voyais dans ces points sur chaque page. Après avoir terminé le test, il ferma son livre et me dit « Sergent, vous ne serez jamais officier parce que vous êtes daltonien. » J'étais époustouflé. Si j'étais daltonien, c'était la première fois que je l'apprenais. Déçu et un peu insulté, je me suis dit que si, moi, comme sergent, je n'allais pas pouvoir réussir à cette épreuve pour devenir officier, je n'échouerais pas au test si un caporal me le faisait passer, car je lui étais supérieur en rang militaire. J'ai demandé à voir le capitaine, un médecin que je pouvais voir de l'autre côté de la pièce. J'ai poussé avec une telle insistance que le caporal a fini par me laisser aller voir le capitaine avec lui. Bon, qu'est-ce qui ne va pas là ? Le médecin a demandé. Je lui explique et il prend le livre de points de couleur de la main du caporal et, à mon soulagement, me fait lui-même passer le test. Après lui avoir dit tous les numéros des points de couleur, il nous dit au caporal et à moi, « Sergent, vous, ça va. Mais vous, caporal, c'est vous qui êtes daltonien. » Alors voilà comment j'ai été qualifié pour devenir lieutenant de la garde nationale d'Utah. Ce qui a ouvert plusieurs portes pour moi, qui m'ont permis de faire quelques expériences importantes dans ma vie. Vous voyez, il vous faut parfois pousser plus fort. Nous vivons vraiment des moments périlleux et il y a cause de s'en inquiéter. Néanmoins, de nos jours, comme à beaucoup d'époques difficiles du passé, les jeunes gens doivent avancer avec optimisme et se préparer pour une longue vie productive. Se marier, avoir des enfants, obtenir une éducation, avoir la foi. Dans son livre récent intitulé « Peace, Happiness and Joy » de frère Richard Scott, il y a un chapitre duquel je cite ce passage. Vous avez le choix. Vous pouvez vous tortiller les mains en désespoir et soucis pour l'avenir, ou vous pouvez choisir de suivre le conseil que donne le Seigneur de vivre en paix et avec bonheur dans un monde inondé de mal. Si vous choisissez de vous concentrer sur le côté noir, c'est cela que vous verrez. Maintenant, regardez le côté clair. Malgré les nids de mal, le monde dans son ensemble est majestueusement beau, rempli de personnes bonnes et sincères. Dieu a pourvu pour nous un moyen de vivre dans ce monde et ne pas être contaminé par les pressions dégradantes qui s'y trouvent partout. Fin de citation. Toutes ces choses sont possibles si nous avons la foi, ce qui est la confiance au Seigneur, la confiance en son plan, la confiance en ses commandements, la confiance en ses bénédictions promises et en ses dirigeants qui ne vous mèneront jamais dans de mauvaises voies. Une des façons les plus efficaces d'avancer avec foi et de repousser le monde, c'est d'observer le jour de sabbat de manière appropriée et positive. Ce jour de culte et de repos des travaux du monde a été divinement mis à part comme ancre pendant les jours de tempête de notre vie. Si nous observons le sabbat convenablement, il nous aidera, nous et nos familles, à développer notre force spirituelle nécessaire pour résister fermement à la tentation et pour rester sans tâche dans ce monde. Profiter convenablement du sabbat augmentera la lumière de notre foi et espoir contre les orages toujours plus noirs du mal et de la méchanceté. Je suis conscient de ce que la plupart des sermons sur le sabbat se concentrent sur ce que nous ne devrions pas faire ce jour-là. Ce n'est pas là mon message. Je parlerai plutôt de ce que nous devrions faire le jour du sabbat. Il nous est commandé d'observer le jour du sabbat et de le sanctifier. Le sabbat est mis à part comme temps sacré pour notre renouvellement spirituel et physique, pour prendre la Sainte Cène, pour se préparer et pour administrer des ordonnances, pour apprendre et enseigner la doctrine et les principes de l'Évangile, pour encourager l'unité familiale, pour rendre service et jouir d'une socialité bonne et juste. Par ce souci du jour de sabbat, nous sommes très différents de la plupart des gens du monde. De nos jours, la plupart des gens n'attachent aucune signification sacrée au sabbat. Il est devenu un jour de poursuite de la richesse, un jour de plaisir, de convenance personnelle. C'est le plus grand jour de course de la semaine. C'est le jour de la plage, des bateaux et d'autres récréations. C'est le jour favori pour le sport, les matchs, les rodéos et tout le reste. Nous connaissons tous l'origine du jour de sabbat. En 6 jours, l'Éternel créa la terre et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il se reposa. Il bénit le jour du sabbat et le sanctifia. Il commanda, « Pendant 6 jours, tu laboureras et feras tous tes travaux. Mais le 7e jour, nous ne devons pas travailler, ni notre famille, ou nos employés. Nous devons nous souvenir de garder ce jour dans sa sainteté. Le sabbat fut un signe de l'alliance que Dieu fit avec Israël. À travers la bouche du prophète Ézéchiel, l'Éternel dit qu'il avait donné à Israël ses commandements et aussi, dit-il, je leur donnais mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Saints sont mes sabbats, le Seigneur dit, et ils seront un signe entre moi et vous. Le jour de sabbat, ce signe et commandement avait une raison d'être. Il y avait des bénédictions qui en découlaient par l'obéissance. Par la bouche du prophète Moïse, le Seigneur déclara que si Israël gardait ses sabbats et des commandements, il ferait de leur pays un pays d'abondance et de sécurité. Je mettrai la paix dans le pays, leur a-t-il promis. Encore une fois, dans les temps modernes, le Seigneur a commandé que l'on se repose de nos travaux le jour de sabbat et que nous payions nos dévotions au plus haut des cieux et qu'en ce jour, nous ne fassions rien d'autre. Lorsque nous gardons les commandements du Créateur, nous nous qualifions pour ces bénédictions promises. Lui qui nous a créés connaît nos façons d'agir et nous permettra d'atteindre une performance physique et spirituelle maximum. Alors, il nous a donné des commandements faits pour nous guider vers ce but. Il y a quelques années, j'ai acheté une nouvelle voiture. C'était une merveille d'ingénierie, de grands services très complexes, et bien sûr, il lui fallait une infusion régulière de carburant et quelques prévisions de maintien pour qu'elle puisse fonctionner au maximum. Pour instruire l'utilisateur sur ses besoins, le fabricant avait mis à disposition un manuel d'instruction. Notre Créateur a fait la même chose pour le maintien de notre corps et de notre esprit. La parole de sagesse est une telle instruction, et ainsi en est-il aussi du jour de sabbat. Notre Créateur nous a dit qu'il serait bon pour notre vitalité physique et croissance spirituelle de travailler 6 jours et de nous reposer le 7e jour. Les pionniers, avec leurs wagons, ont suivi ce commandement. Nous savons de plusieurs sources qu'ils voyageaient pendant 6 jours et se reposaient le 7e. Le dimanche n'était pas seulement un jour de repos, mais aussi un jour de renouvellement. Cette pratique les a bien servis. Selon la tradition, ceux qui ne voyageaient que 6 jours à travers les plaines arrivaient au même endroit que ceux qui y arrivaient en 7 jours et avec moins de fatigue, moins de difficultés, de perte de vie et de bétail sur le chemin que les autres. De même, notre corps ne peut pas grandir sans les éléments nutritifs que notre Créateur avait l'intention que nous prenions. Par exemple, si nous nous passons de calcium, les résultats ne sont pas immédiatement visibles, mais avec le temps, la machine miraculeuse qu'est notre corps tombe en panne sans cet élément essentiel à notre croissance. Il en est de même de notre vitalité spirituelle pour nous soutenir dans notre voyage terrestre jusqu'à la vie éternelle. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut pour nous nourrir spirituellement, notre esprit en souffrira et nous aurons du retard avec notre voyage à destination de l'éternité. Notre habillement est aussi important pour la qualité de notre culte et pour notre requête des bénédictions découlant de l'observance du jour de sabbat. Au cours des quelques années passées, nous avons remarqué une détérioration accrue de la dignité, de l'à-propos, de l'habillement de nos membres, surtout chez les jeunes, lorsqu'ils viennent adorer Dieu dans nos chapelles. Nous devons faire attention de nous habiller convenablement lorsque nous allons adorer et prendre la Sainte Cène. Pour pouvoir présenter ces dévotions au Très-Haut, nous devons assister aux réunions le jour de sabbat dans nos propres paroisses, là où se trouve notre carte de membre, où nous payons la dîme et recevons notre recommandation à l'usage du temple. Aller dans une autre paroisse devrait être une exception peu fréquente. Jeunes adultes, surtout les jeunes gens, n'allez pas visiter les paroisses d'alentour sans avoir d'appel pour le faire. Beaucoup d'entre vous le faites sous prétexte de vouloir rencontrer une compagne éternelle. Bien sûr, il y a de nombreuses occasions appropriées pour les jeunes de se rencontrer, et nous ne décourageons pas ceci, au contraire. Mais votre motivation ou raison principale pour aller aux réunions le dimanche ne devrait pas être celle d'assister à une occasion sociale. Le sabbat, c'est le moment de prendre la Sainte Cène, de rendre service à l'Église et de maintenir une relation avec votre évêque, le juge commun du Seigneur, celui qu'il vous faudra voir pour une recommandation en l'usage du temple. Ne soyez pas comme ce jeune homme qui récemment a demandé de voir son évêque en toute urgence parce qu'il voulait se marier au temple la semaine suivante. L'évêque lui a dit, « Mais qui êtes-vous ? J'ai votre carte de membre et je connais vos parents, mais je ne vous ai pas vu depuis que vous êtes rentré de mission. Je n'ai rien qui me montre que vous avez payé votre dîme. Je sais que vous n'avez pas servi le Seigneur dans un appel. Je ne peux pas vous donner de recommandations à l'usage du temple. Retournez dans votre paroisse, servez donc ici, payez votre dîme ici, et faites connaître votre esprit à votre évêque ici. Puis dans quelques mois, nous pourrons parler d'une recommandation. » Quand le mariage n'a pas pu avoir lieu la semaine prévue, cela a été difficile pour tout le monde, surtout pour l'évêque. Mais l'évêque avait raison. En parlant d'évêque, je voudrais demander quelque chose à chaque jeune adulte dans cette assemblée. Les personnes les plus chargées dans l'Église, ce sont les évêques. S'il vous plaît, je vous en prie, ne faites rien qui ajoute du poids supplémentaire à la charge déjà énorme de votre évêque. Allez le voir, bien sûr, pour obtenir une recommandation à l'usage du temple, mais ne demandez pas à la dernière minute d'obtenir une recommandation ou une recommandation ecclésiastique. Le jour où vous entrez dans une nouvelle paroisse et allez vers le nouvel évêque pour lui la demander. Si vous faites cela, il devra trouver votre évêque précédent pour obtenir une vérification de votre dignité et que votre manque de préparation ou tendance à remettre à plus tard ne soit pas une charge supplémentaire pour votre évêque déjà surchargé. Alors, j'ai dit au début que je ne parlerai pas de ce que nous ne devons pas faire le jour de sabbat. Je voudrais me concentrer sur les choses positives que nous devons faire et qui nous qualifient pour recevoir les bénédictions promises à ceux qui sanctifient le jour de sabbat. Notre effort en cela commence par voir le jour du sabbat comme un jour fondamentalement différent. Il y a longtemps, frère Spencer Kimball a dit, « Il semble y avoir tant de bruit dans ce monde. Nous n'avons que rarement l'occasion d'entendre la voix du Seigneur, si ce n'est que par la petite voix douce. Il serait donc bon pour nous, au moins une fois par semaine, de repousser le bruit de ce monde et de faire du sabbat un endroit tranquille pour notre esprit. » Des années plus tard, après que frère Kimball est devenu le président Kimball, la première présidence a institué l'horaire groupé de 3 heures de réunion à laquelle nous adhérons toujours. Cet horaire placerait, ont-ils dit, la responsabilité de l'observance convenable du jour de sabbat sur les épaules des membres individuellement et des familles. La première présidence a observé qu'il y aurait davantage de temps disponible pour l'étude personnelle et en famille des Écritures. D'autres activités appropriées du jour de sabbat, telles que rendre visite à des membres de la famille, visiter des personnes malades et forcées de rester à la maison, rendre service à ses semblables, écrire dans un journal personnel, faire de la généalogie et du travail missionnaire, peuvent être soigneusement planifiées et réalisées. Cette année, les collèges de la prêtrise et les sociétés de secours ont étudié les enseignements du président Kimball. Au chapitre intitulé « Le sabbat, un délice », il nous est dit que le sabbat est un jour sacré où l'on peut faire des choses sacrées. S'abstenir de travailler et de s'amuser est important, mais insuffisant. Le sabbat demande de la réflexion et des actions. Et si l'on ne peut faire que se reposer et ne rien faire ce jour-là, cela revient à mépriser le jour de sabbat. Fin de citation. Le commandement demande une action constructive pendant le sabbat. Il donne aussi un commandement pour les autres six jours. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Alors, les paresseux, attention. Prendre la Sainte Cène est probablement la partie la plus importante de l'observance du jour de sabbat. La Sainte Cène est une ordonnance de l'Église à laquelle il nous est commandé de participer chaque jour de sabbat. Lorsque nous faisons et gardons les alliances de cette ordonnance, il nous est promis que nous aurons toujours son esprit. Pourquoi est-ce important de toujours avoir son esprit? La mission du Saint-Esprit est de témoigner du Père et du Fils et de nous mener à la vérité. Ce témoignage est tout à fait vital à notre propre témoignage. Nous ne pouvons avoir un témoignage du Père qui est l'auteur du plan de salut et du Fils qui est notre Sauveur, à moins d'en avoir le témoignage de la part du Saint-Esprit. Tous les membres de l'Église ont le don du Saint-Esprit, mais prendre la Sainte Cène dignement et convenablement chaque jour de sabbat est essentiel pour pouvoir maintenir notre témoignage fort. Ce n'est qu'en renouvelant les alliances faites au baptême que nous pouvons avoir toujours son esprit avec nous. Le Saint-Esprit a aussi la mission de nous rappeler certaines choses et de nous mener à la vérité. Cette révélation personnelle est essentielle pour nous, car elle nous protège du danger, nous guide à vivre en harmonie avec le Seigneur et nous mène à devenir ce qu'il veut que nous devenions. Pour ces raisons, assister aux réunions de Sainte Cène chaque semaine et prendre dignement et convenablement la Sainte Cène sont des activités fondamentales de notre vie religieuse quotidienne.
Here I feel to share a personal experience.
Je voudrais maintenant vous raconter une expérience personnelle qui a beaucoup influencé ma pensée au sujet du sabbat. Lorsque j'étais étudiant en droit, il y a plus de 50 ans, je faisais partie d'un petit groupe d'étudiants où il y avait parmi nous un juif orthodoxe. Un vendredi après-midi, il a dit qu'il devait nous quitter et prendre le train pour qu'il puisse arriver chez lui au nord de Chicago avant que le sabbat commence au coucher de soleil. Je l'accompagnais au train en continuant notre discussion d'études le long du chemin. En arrivant à la gare, notre conversation a tourné au sabbat. Je lui ai dit que j'admirais son enthousiasme de fidélité en l'observance du sabbat, lui déclarant que moi aussi, je n'étudiais pas le jour de sabbat. Il me répondit, « Oh, mais moi j'étudie le sabbat, seulement... le résultat de mes études ce jour-là n'est pas aussi bon que celui des autres jours parce que je ne peux pas souligner ce que je lis. » Il m'a expliqué qu'un crayon était un outil et qu'il ne pouvait pas s'en servir pour souligner ce qu'il lisait pendant le sabbat. J'ai souvent réfléchi au contraste des observances du sabbat. Mon ami avait des règles qui lui disaient ce qu'il pouvait et ne pouvait pas faire. Moi, j'essayais de suivre des principes. Je croyais que je devais travailler dur pendant six jours à mon travail d'études du droit et que, donc, je ne vais pas étudier pendant le sabbat. À moins que vous ne pensiez que je critique mon ami et son observance du sabbat, je dois ajouter que, en apprenant davantage sur l'observance du sabbat des Juifs orthodoxes, j'ai conclu que leur pratique est en beaucoup de points supérieurs à la mienne et à celle de beaucoup d'autres saints des derniers jours. À savoir que pour eux, le sabbat est un temps de dévouement exclusif au rappel du Seigneur, à son culte, un temps de réjouissance fondé en ses bénédictions envers son peuple. Le sabbat est un jour sacré. La famille se rencontre. ils assistent à la synagogue. Mais autrement, le jour de sabbat est entièrement un temps pour la famille, pour se voir, pour dîner ensemble, pour étudier les Écritures. Les parents invoquent des bénédictions sur leurs enfants. En plus, toute activité qui pourrait diviser la famille ou détruire la paix de la journée n'est pas considérée le jour de sabbat. Nous avons bien moins de règles que les Juifs orthodoxes. Mais je me demande si nous pourrions égaler leur excellence à réaliser les buts positifs du jour de sabbat. En réfléchissant à mes propres pratiques le jour de sabbat, je crois avoir eu plus de succès en ne faisant pas ce que je ne devais pas faire qu'en faisant ce que je devais faire. Avec tant d'autres, je n'ai pas été aussi efficace en appliquant les enseignements des Écritures de faire les choses qui feraient du saint jour du Seigneur un jour délicieux, comme le prophète Ésaïe l'appelle. Nous allons lire au chapitre 58 d'Ésaïe. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que peuvent faire les individus et les familles pour faire du jour de sabbat un jour délicieux? Que pouvons-nous faire pour augmenter notre foi en Jésus-Christ et pour fortifier les familles en observant ce jour? Il y a 14 ans, la première présidence a publié une déclaration exhortant les saints des derniers jours à mettre ce jour saint à part des activités du monde et à se consacrer par un esprit de culte, de reconnaissance, de service et d'activité centrée sur la famille et convenable au jour de sabbat. Nous devons passer le jour de sabbat à renouveler l'esprit. Nous devons, comme le président Kimball l'a dit, mesurer chaque activité du sabbat selon la mesure du culte. Une autre fois, il a dit, en hébreu, le mot sabbat veut dire repos. On contemple la tranquillité, la paix de l'âme et de l'esprit. C'est un jour pour nous débarrasser de nos intérêts égoïstes et d'activités qui nous absorbent. Un jour d'abandon de tout intérêt mondain et de louange au Seigneur. Il a aussi approuvé une activité de jour de sabbat qui est d'intérêt spécial à ce groupe. Il a dit, c'est un jour pour faire convenablement la cour. Mais je souligne le mot « convenablement ». Le sabbat est aussi un temps pour que la famille soit ensemble, un temps pour fortifier les liens qui sont au cœur de l'Évangile. Le président Kimball a dit, « Prenez le temps, le jour de sabbat, d'être ensemble en famille, pour causer ensemble, pour étudier les Écritures, pour visiter des amis de la famille, des personnes malades et des solitaires. C'est aussi un bon moment pour écrire dans un journal et faire de la généalogie. » Le président Joseph F. Smith a enseigné un principe important sur la famille et le sabbat. En plus d'assister aux réunions de l'Église, il a ajouté, je cite, « J'aimerais tant avoir le privilège d'être en famille, à la maison, et de parler avec chaque membre pour mieux les connaître. J'aimerais avoir le privilège d'occuper une grande partie de mon temps, si cela était possible, le jour de sabbat, pour ces raisons, et aussi pour mieux connaître mes enfants, pour garder le contact avec eux, avec les Écritures aussi, et penser à des choses autres que les amusements, autres que les blagues et les rires et des choses pareilles. Fin de citation. Je vous prie, les jeunes adultes, mariés et célibataires, de faire du jour de sabbat un jour de famille ensemble. N'allez pas vous amuser un peu partout, ce qui sépare la famille. Faites le culte, étudiez, ayez des conversations et réjouissez-vous ensemble. Faites du sabbat un jour délicieux, le jour du Saint-Seigneur. Puis, comme l'a promis Ésaïe, tu feras de l'Éternel tes délices et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans l'Église de Jésus, de l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours. Nous sommes les enfants de notre Père céleste. Nous sommes ici sur la terre pour une bonne raison. Et cette raison, c'est celle qui nous mène à des relations familiales éternelles. Dans le temps ou l'éternité, toutes les promesses du Père céleste seront à nous si nous gardons ses commandements et si nous honorons son jour de sabbat. Et lorsque nous faisons cela, nous pouvons opérer dans la vie en meilleure santé, plus fort. Et je prie que nous puissions prendre cette route qui nous mène à la vie éternelle et obtenir tous les dons de Dieu. Je témoigne de ces choses et j'invoque les bénédictions de Dieu sur vous, mes jeunes amis, au nom de Jésus-Christ. Amen.